14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas s'il a souffert, s'il a eu peur de savoir la vérité avant d'être parti dans la tombe.
Bonjour, il arrive que des enquêtes trébuchent. Il est rare qu'elles connaissent le naufrage. C'est pourtant ce qui s'est passé avec l'affaire Paquita Parra, une jeune femme de 30 ans assassinée dans des conditions jamais élucidées. À l'hiver 1998, en Charente, des investigations bâclées et chaotiques qui vont laisser dans le désarroi et l'interrogation toute une famille. Une mère, des frères qui veillaient depuis toujours avec affection sur la jeune femme. 23 ans d'un épais mystère, des pistes perdues, des témoins oubliés, d'autres qui n'ont jamais eu le courage de parler. Après une si longue attente, la justice qui a rouvert l'enquête semble aujourd'hui décidée à rattraper le temps perdu, à remettre dans l'ordre les pièces éparpillées d'une énigme qui, on va le voir, n'a pas été avare de rebondissements et pourrait en connaître d'autres. Alors, l'affaire Paquita Parra sera-t-elle résolue? Pourquoi la loi du silence règne autour de cet assassinat? Ce vendredi 4 décembre 1998, peu après 3h du matin, deux gendarmes de la brigade de la Couronne traversent le bourg désert et endormi de Puy-Moyen, en Charente. Une patrouille ordinaire. Les gendarmes bifurquent vers la vallée des Eaux Claires, des falaises blanches qui, le jour, sont le rendez-vous des amoureux de Varap, la nuit, celui des amoureux tout court. La patrouille déboule sur la carcasse d'une Fiat Uno de couleur rouge qui finit de se consumer sur un petit parking. De la fumée s'échappe encore des pneus. Le brasier a été intense, sans doute une voiture volée. Les gendarmes notent tout de suite, à proximité, la présence du pare-brise. Il a été méticuleusement enlevé pour accélérer la combustion. Les portières sont verrouillées, les vitres ont explosé sous l'effet de la chaleur. En s'approchant, les militaires découvrent un corps, en partie carbonisé, celui d'une femme installée côté conducteur. La clé est encore sur le contact. Impossible en l'état de l'identifier, mais la Fiat est celle d'une certaine Francisca Parra Palmero, âgée de 30 ans, habitant Villebois-Lavalette, à une vingtaine de kilomètres. Une jeune femme que tout le monde connaît sous le nom de Paquita Parra. Les experts examinent la carcasse du véhicule. Tout relevé d'empreintes à cause du brasier s'avère impossible. Ils notent la présence d'allumettes et d'un produit inflammable à hauteur des pédales. C'est probablement de là que le feu est parti. Il est également établi que le siège conducteur est reculé à son maximum alors que la victime est de petite taille, environ 1m65. En dépit des doutes qui entourent cette mort, aucun périmètre de sécurité durable n'est vraiment établi. Les abords du parking ne seront jamais vraiment fouillés à la recherche d'objets ou d'indices. Le médecin légiste, au regard de l'état du corps, est incapable de dire de quoi est morte Paquita Parra, seule certitude. Celle-ci n'a pas inhalé de fumée et de vapeur toxique due à l'incendie. Elle était déjà décédée quand le feu a débuté. Pas un suicide donc, mais un assassinat. En bonne et due forme, tout a été fait pour effacer les moindres traces. Le décès a sans doute eu lieu dans la soirée du 3 décembre, quelques heures avant la découverte des gendarmes. Paquita Parra, belle jeune femme brune, souriante, décontractée et amicale, travaillait depuis 10 ans dans les services administratifs de la base logistique des magasins Intermarché à Roulé-Saint-Estèphe. Elle avait acheté une maison rue de l'Église à Villebois-Lavalette et avait souscrit pour cela un emprunt sur 20 ans. Elle était célibataire et entretenait depuis quelques mois une relation avec un homme de son âge travaillant pour la même enseigne. Chacun toutefois vivait de son côté. Selon ses 5 frères et sa mère, une famille d'origine espagnole totalement effondrée, Paquita n'excluait pas de fonder un jour ou l'autre un foyer, même s'il connaissait depuis longtemps son goût pour la liberté et l'indépendance. La jeune femme sortait fréquemment, avait beaucoup d'amis et aimait faire la fête. Aurait-elle fait une mauvaise rencontre parmi ses connaissances? David Parra, l'un des frères, confie au journal Sud-Ouest « C'est comme si on nous avait coupé un bras ». On ne s'en remettra jamais. On vit depuis le 4 décembre dans une situation irrationnelle. Nous n'avons même plus la notion du temps. Depuis les premiers jours de l'enquête, les gendarmes estiment que Paquita Parra avait sans doute rendez-vous avec son meurtrier, quelqu'un qu'elle connaissait. Selon ses proches, Paquita était une jeune femme certes habituée à voir du monde, mais qui ne serait pas partie avec un inconnu. Elle était trop craintive et méfiante pour cela. L'entourage de la victime est ainsi passé au crible par les 7 enquêteurs qui travaillent sur le dossier. Apparaît dans le paysage un ancien petit ami, Franck C., un artiste peintre alors âgé de 29 ans, un garçon peu apprécié des frères de Paquita. Il se serait parfois montré violent avec elle. Selon les témoignages recueillis, il apparaît que Franck n'aurait pas supporté la séparation avec la jeune femme. Il aurait ainsi affirmé que s'il faisait un jour quelque chose contre Paquita, personne n'en saurait rien. Qui plus est, les enquêteurs indiquent avoir retrouvé un tube de gouache dans la Fiat carbonisée, un tube de peinture qui aurait pu lui appartenir. Franck était en retard à son travail au matin du 4 décembre, jour de la découverte du corps. 28 septembre 1999, Franck C. est placé en garde à vue pendant moins de 48 heures. Face aux gendarmes, l'ex-petit ami dément farouchement avoir tué Paquita. Il fournit également son emploi du temps. La nuit du meurtre, entre 19h et 1h du matin, il s'est rendu chez des amis. Ces derniers ont confirmé sa présence. Malgré ces éléments et l'absence de preuves, les enquêteurs estiment tenir le principal suspect. Conviction faite à la lecture d'un rapport envoyé par fax par Michel Agrapard Delmas, considérée comme l'une des meilleures profileuses françaises. Cette criminologue vient alors d'être désignée comme experte par la juge d'instruction d'Angoulême, Elisabeth de Sancière-Ferrandière. Michel Agrapard Delmas n'a jamais rencontré le dénommé Franck C., mais son rapport est accablant. Elle le présente comme une personnalité totalement compatible avec un passage à l'acte meurtrier sous le coup d'une frustration, d'une rupture ou d'un rejet. L'experte téléphone même aux gendarmes pendant les interrogatoires. Ses conclusions font du suspect un coupable à part entière. À l'appui de ses certitudes, la juge le met en examen pour assassinat et le place en détention provisoire. L'artiste peintre Franck C. va passer 10 mois en prison. Son avocat, maître Daniel Lalanne, met en cause l'intervention de la profileuse dans le dossier. Il menace de demander sa radiation. La juge d'instruction, Elisabeth de Sancière-Ferrandière, est également accusée de partialité. Elle sera récusée par la chambre de l'instruction de Bordeaux. Il existait des présomptions graves. Il n'y avait pas besoin de cette expertise. L'instruction a été saccagée, déplore l'avocate de la famille Parra, maître Christine Maz. 1er octobre 2002, la mise en examen de l'ex-petite amie est annulée. 4 ans après le crime, le dossier revient à son point zéro.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL.
Il est temps que ça s'arrête et qu'on puisse dire « ça s'est passé comme ça, on a trouvé la personne qui a fait ça, on s'est bougé et que les frères, toute la famille, nos avocats, la justice, enfin avance et on va trouver. »
Heure du crime consacrée aujourd'hui au meurtre de Paquita Parra, jeune célibataire de 30 ans retrouvée morte dans sa voiture carbonisée en 1998. Plus aucune piste, presque 20 ans vont ainsi s'écouler jusqu'à une spectaculaire découverte. En ce mois de septembre 2017, des élèves d'une classe de seconde du lycée Charles Coulon d'Angoulême effectuent une sortie dans les bois environnants entre les localités de Macampagne et celle de Puymoyen. C'est près de ce dernier bourg qu'avait été découvert le corps de Paquita Parra. Les lycéens doivent retrouver des objets à vocation artistique. Au pied d'un arbre, chemin de Saint-Martin, une élève découvre une boîte en plastique rose qui contient des affaires abandonnées. Dans la boîte, un porte-chèque du Crédit Agricole, une carte de laboratoire, une carte Conforama, une carte Super G, une carte Club Dial, une carte des magasins Auchan et un vieux pull vert. Tous les documents sont au nom d'une certaine Parra Palmero, Francisca ou Paquita. Le nom ne parle pas à personne, ni aux lycéens, ni aux enseignants. L'adolescente va conserver la fameuse boîte sous son lit pendant 9 mois, sans jamais y toucher. C'est sa mère qui, après une recherche internet, va faire le rapprochement avec le crime. 15 juin 2017, la boîte est remise aux gendarmes de la section de recherche de Poitiers. 2 ans auparavant, le procureur Jean-David Cavaillé leur a donné pour mission de reprendre toutes les investigations dans le dossier Paquita Parra. La justice ne veut pas rester sur un échec. Les gendarmes ont procédé à de nouvelles auditions de témoins. Mais avec cette découverte, l'information judiciaire est désormais rouverte. Première surprise, la fameuse boîte n'est pas restée pendant 20 ans sous cet arbre. Loin de là, elle a été déposée récemment. Qui a déposé ces objets ? Pourquoi ça l'être débarrassé ainsi plutôt que de les avoir brûlés ? Pourquoi les avoir conservés aussi longtemps ? S'interroge un enquêteur dans la Charente Libre, découverte qui conforte la relance des investigations et pourrait être propice à des témoignages inédits. La famille l'espère. Le 4 septembre 2019, quatre techniciens de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, le juge d'instruction Vincent Raffray, quatre des cinq frères de Paquita Parra et leur avocate, assistent à l'exhumation du corps de la victime. Celui-ci est transféré dans un autre cercueil. Il s'agit pour les légistes de réexaminer la dépouille, notamment la boîte crânienne qui présentait un éclatement sur le côté droit. L'autopsie n'avait pas pu déterminer s'il s'agissait d'un coup porté par un objet ou la conséquence de la chaleur du brasier. Les analyses vont durer 4 mois sans, semble-t-il, apporter de nouveaux éléments sur la mort de Paquita. Celle-ci est remise en terre en présence des siens. Ma mère craque. Il est temps que tout cela s'arrête et qu'on lui dise ce qui s'est passé, indique alors Salvador Parra, l'un des frères. La famille de Paquita espère qu'un simple détail pourrait mettre les enquêteurs sur la piste de l'assassin. Fait troublant, il apparaît que la victime se sentait menacée. Ce 3 décembre 1998, quelques heures avant de trouver la mort, elle avait été convoquée à la gendarmerie de Villebois-la-Valette, le village où elle habitait. Un chéquier volé, lui appartenant, avait servi à faire un plein de carburant dans une station-service du coin. Lors de ce rendez-vous à la gendarmerie, Paquita Parra aurait indiqué qu'elle avait peur et qu'elle se sentait menacée. Elle aurait même demandé à être placée sur écoute au cas où l'on veuille s'en prendre à elle. Paquita n'avait livré aucun nom ou aucun indice permettant d'identifier celui ou ceux qui l'effrayaient. Elle était rentrée chez elle vers 18h30 pour en ressortir et se rendre à un mystérieux rendez-vous. 29 juin 2021, dernier soubresaut en date dans le dossier Paquita Parra. 4 personnes appartenant à l'entourage de la victime, des parents et des amis, sont placées en garde à vue. Celles-ci sont questionnées, notamment sur des emplois du temps. Elles sont toutes relâchées le lendemain. Ces auditions ont permis de procéder à un certain nombre de vérifications en confrontant les déclarations des uns et des autres. Mais malgré la bonne volonté des enquêteurs, cette enquête, malmenée à son démarrage, ne peut alors pas aller beaucoup plus loin. Car l'affaire n'a plus de juge. La faute à des arrêts maladie et au manque de magistrats. Personne n'a été trouvé pour remplacer au pied levé le dernier juge en date, Vincent Raffray, muté dans une autre juridiction. La famille se retrouve à nouveau désarçonnée et impuissante face à cette situation. Le 16 décembre 2021, Salvador Parra, l'un des frères de Paquita, confie ainsi au journal Sud-Ouest « Nous avions repris espoir et puis patatras ». On ne peut pas en rester là, alors qu'il y a des éléments nouveaux qui nous orientent vers le grand banditisme. Il y a des choses en suspens.
Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.